Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.
Gourmande en électricité, terre, eau, l'intelligence artificielle se développe à toute allure. Elle est devenue en quelques années un réflexe pour une large partie de la population et est massivement utilisée au sein des entreprises, de l'État ou des armées. L'IA a pourtant des effets écologiques et humains considérables. Marie-France Barthé, vous avez été présidente de l'Université de Toulouse, élue au Conseil régional d'Occitanie, et vous êtes actuellement présidente du CAUE de l'Aude, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Vos travaux de recherche ont beaucoup porté sur les interactions homme-machine, et vous avez enseigné l'IA à l'université. Bonjour, bienvenue dans notre MAG de l'environnement. Avant d'aborder les impacts de l'IA sur l'environnement et de rentrer donc dans le vif de notre sujet du jour, pourriez-vous nous parler des différentes répercussions de l'utilisation de l'IA sur notre société ?
Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité. Je voudrais d'abord parler du côté positif de l'IA, parce qu'on voit que les aspects négatifs, et il y a quand même quelques aspects positifs, en particulier l'aide au diagnostic dans la santé. On a maintenant des diagnostics beaucoup plus fins qui permettent de prévoir les maladies et grâce à la lecture de l'IA. Et ça, c'est quand même important pour tout le monde.
Effectivement.
On peut avoir aussi une aide à la décision pour les cadres, que ce soit les avocats, les ingénieurs, etc. Donc, il peut y avoir un aspect positif. Voilà. Ce qui permet, par contre, là où on va avoir des problèmes, c'est l'effet sur l'emploi. Alors, l'effet sur l'emploi, les économistes ne sont pas entièrement d'accord sur est-ce que ça va supprimer beaucoup d'emplois ou est-ce que ça va être uniquement des reconversions. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un peu difficile de le savoir, mais nous savons quand même qu'il va y avoir un impact important, en particulier pour tous les métiers dits « col blanc ». Puisque une partie l'IA se base sur les textes qui sont diffusés dans toutes les bases de données, et en particulier, elle peut faire vraiment concurrence à des jeunes qui débutent. Je viens d'apprendre que les jeunes informaticiens ont plus de mal à trouver du travail à l'heure actuelle, bizarrement, parce que l'IA code terriblement vite et terriblement bien. Alors que les gens qui ont plus de bouteilles ne sont pas en concurrence avec l'IA parce qu'ils peuvent dominer le sujet. Mais pour les jeunes qui démarrent, c'est un vrai problème. Voilà. Donc il va falloir suivre le développement de l'IA pour savoir si ça va être très destructeur ou si ça va être une mutation comme on en a connu d'autres. Par contre, ce qui est à mon avis franchement négatif, c'est le contrôle généralisé de la population.
Ah oui, un sacré sujet.
Et hélas, ce n'est pas de la science-fiction. Il suffit d'observer la Chine. La Chine, qui est très en avance au niveau de l'IA, a mis en place un système de contrôle généralisé de sa population basé sur l'IA et sur les vastes ensembles de données, bien entendu. Et elle est en même de contrôler même le fait que quelqu'un puisse rentrer dans un magasin.
Oui, donc c'est aussi avec les caméras, c'est ça hein.
Oui, c'est couplé avec les caméras, bien sûr, et la reconnaissance faciale.
Ouais.
Et c'est couplé avec la vie de la personne. Et donc, on peut lui permettre, on peut la contrôler, elle croit être libre dans l'espace public, elle ne l'est plus. Voilà. Et donc ça, alors, c'est pas le cas en France, mais aux dernières élections municipales, j'ai entendu des candidats qui parlait d'utiliser l'IA pour prévenir les vols. Mais prévenir les vols, ça veut dire que c'est arrêter la personne avant qu'elle ait fait un délit. Bon, je pense que c'est pas trop possible en France, j'espère. Mais on voit très bien que dans un certain système totalitaire, on peut aller très loin et très vite, et on sait le faire.
Voilà,
ce n'est plus de l'anticipation.
Et les outils existent, comme vous dites.
Ah oui, les outils existent. Et c'est uniquement une volonté politique de les utiliser ou de ne pas les utiliser. J'espère qu'en France, nous n'aurons jamais l'occasion de l'utiliser. Et le troisième élément que j'ai découvert récemment, c'est l'emprise que peuvent avoir sur des particuliers, pas sur les entreprises, des personnes qui qui sont à la recherche d'une écoute. Et au lieu de s'adresser à un humain, un ami, un psychologue, un professionnel, ils s'adressent à l'IA. Et comme l'IA est programmée pour faire plaisir et aller toujours dans le sens de la personne, elle croit avoir quelqu'un qui l'écoute vraiment. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'écoute. Hein. C'est un traitement sur le langage et ce n'est pas du tout une écoute. Et au niveau émotionnel, c'est rien du tout. Mais cette emprise crée des addictions. Et je suis très étonnée de voir qu'il puisse y avoir des addictions de personnes sur ce thème-là.
Voilà, l'IA qui entraîne vraiment un éloignement finalement entre les différentes relations humaines, quoi.
Oui, complètement. Et ça, ça me semble, on n'en parle pas trop, mais ça me semble très grave aussi.
Un sujet assez vertigineux. On se retrouve dans la deuxième partie.
Sa tête n'abrite que du vide, sur ses mains coule le poison. Sur ses mains coule le poison. Il pleure de l'huile ou de la graisse, mais ses yeux rouillent de lassitude. Il tourne en rond, c'est sa faiblesse, enfermé dans l'habitude. Enfermé dans l'habitude. Pas le mécanisme, il n'appuie pas sur le bouton. Il n'enclenche pas le mécanisme, il n'appuie pas sur le bouton. Ouais, pourtant, c'est lui qui nourrit la bête, qui fait qu'elle survit jour après jour. Et pourtant, c'est lui qui engraisse le monstre, retranché dans sa tour. La machine. Pour faire tourner le mécanisme, il faut toujours plus de combustible. En le rendant indispensable, la bête se croit indestructible. La bête se croit indestructible. Il n'enclenche pas le mécanisme, il n'appuie pas sur le bouton. Il n'enclenche pas le mécanisme, il n'appuie pas sur le bouton. Ouais, pourtant. C'est lui qui nourrit la bête, qui fait qu'elle survit jour après jour. Mais pourtant, c'est lui qui engraisse le monstre, retranché dans sa tour. Mais pourtant, c'est lui qui nourrit la bête, qui fait qu'elle survit jour après jour. Mais pourtant, c'est lui qui engraisse le monstre, retranché dans sa tour.
L'explosion des usages numériques favorisés par l'IA nécessite le stockage de données dans des centres de données, les data centers, qui sont des bâtiments bien réels, en fonctionnement jour et nuit, et non pas des nuages, hein, comme on pourrait le laisser supposer par le fameux terme de cloud. Les installations de ces infrastructures, présentées comme une aubaine pour l'attractivité et la souveraineté de la France, ont des impacts environnementaux loin d'être négligeables. Consommation énergétique, consommation en eau, consommation de sol, risque de pollution atmosphérique, problème d'extractivisme minier. Marie-France Barthé, vous avez longtemps enseigné l'intelligence artificielle et vous êtes avec nous dans cette seconde partie de notre MAC de l'environnement. Alors, qu'en est-il de l'impact de l'IA sur l'environnement ?
Le premier élément, c'est la consommation énergétique. Parce que pour pouvoir maintenir, comme vous l'avez dit, 7 jours sur 7, 365 jours par an, la nuit, le jour, des bases de données, il faut de très grands centres de calcul. Et l'IA, ça on en avait déjà des centres de calcul, mais on en a besoin d'encore plus, parce qu'il y a besoin d'accéder à toutes ces données, Et surtout, il y a des capacités de calcul supérieures dont nous avons besoin pour utiliser l'intelligence artificielle. Ouais. Il faut bien voir qu'il y avait déjà la pyramide du numérique, et l'IA, c'est une couche supplémentaire plus gourmande que la première couche.
Non, mais poser une question à l'IA, en fait, ça demande beaucoup plus d'énergie que juste une simple recherche Internet. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Donc, les recommandations, c'est quand on peut faire une simple recherche, on fait la simple recherche et on n'utilise pas l'IA pour aller faire une recherche sur une base de données classique. C'est absurde, c'est coûteux en énergie et ça apporte pas grand-chose. Alors que c'est vrai que quand on fait une requête IA, on a un produit tout fait qui a regardé tous les textes, alors que nous, quand on consulte, on fait une simple consultation Internet, il faut qu'on aille regarder. Mm. Donc c'est vrai que c'est tentant.
C'est tentant, mais c'est très énergivore.
Mais c'est très énergivore. À l'heure actuelle, ça consomme autant d'énergie que les vols, que l'ensemble des avions autour de la planète.
Ah oui, quand même.
Et cela ira en augmentant, parce qu'on voit très bien qu'on en est au début de l'utilisation de l'IA, et on voit très bien qu'avec tous les projets qu'il y a, on va encore augmenter cette consommation d'énergie. Voilà.
Il y a également la consommation en eau.
Oui, alors la consommation en eau, elle est autant la consommation en énergie, on la voit, la consommation en eau, pourquoi elle consomme de l'eau? Parce qu'en fait, quand on consomme de l'énergie, ces centres, ces data centers chauffent. Et donc, il faut les refroidir. Parce qu'à ce moment-là, les composants ne fonctionneraient plus de manière optimale si la température monte de trop. Et pour cela, le meilleur produit pour refroidir, c'est l'eau. Et ça, c'est un vrai problème parce que nous savons très bien qu'avec le changement climatique, nous aurons plutôt des pénuries en eau, parfois trop d'eau et parfois des pénuries. Et comme en plus les data centers, on préfère les installer dans des endroits un peu secs au niveau de l'air. La consommation en eau est un vrai problème. Et j'ai vu un reportage sur le Mexique où il y avait un conflit entre les usages des maraîchers, des paysans qui font des légumes et des céréales, et la consommation en eau d'un data center qui avait été implanté. Ils avaient une pénurie d'eau dans la journée, 2 à 3 heures d'eau.
En raison du data center installé sur les terres.
Qui, lui, en a besoin tout le temps.
Oui, consommation permanente en électricité, en eau. Et il semble y avoir effectivement une forte opacité aussi sur les lieux d'implantation, justement, sur le territoire. Qu'est-ce qu'il en est des installations, justement, de data centers en France, peut-être même voire plus localement, en Occitanie?
Alors, oui, il y a une opacité parce que il y a une histoire. Dans les premiers data centers, c'était vraiment considéré comme des éléments techniques. Et on voyait même pas pourquoi on demanderait l'autorisation à un conseil d'administration, à la population autour, si c'était judicieux ou pas de mettre un data center. À part que maintenant, vu la puissance de ces data centers et leur nécessité en énergie et en eau, il serait normal de faire de la consultation. Mais ça n'a pas été, c'est pas prévu. Et comme c'est considéré, par exemple, comme des éléments stratégiques pour la puissance de la France, de l'Occitanie, on ne peut pas dire que la transparence soit l'élément le plus important pour ces implantations. Alors qu'à mon avis, maintenant, il faudrait que les citoyens puissent savoir où sont ces data centers, combien ils consomment. Il faudrait qu'il y ait un contrôle citoyen.
Bien sûr. Donc, on compte aujourd'hui 352 centres de données implantés sur le territoire français, apparemment. C'est des chiffres de 2025. Et il y a effectivement encore de nombreux projets en cours, en tout cas tout autour du globe, mais également sur notre territoire. Vous aviez l'exemple du data center de Météo France à Toulouse, et justement de l'Université de Toulouse qui était couplé, c'est ça?
Oui, en fait.
Une expérience intéressante.
On a voulu voir comment amortir les problèmes générés par les data centers. Et donc, je me demande parfois si c'est pas uniquement des rustines. En fait, ce qu'on a fait, c'est que au lieu pour refroidir, on a chauffé les bâtiments autour et tout un quartier est chauffé par la chaleur dégagée par le data center. Donc, au lieu de climatiser, nous réutilisons la chaleur. Ça me semble quand même un peu plus intéressant, à part que la chaleur, c'est bon pour l'hiver, mais l'été, de toute façon, on ne peut pas. Voilà. Donc, nous avons eu une autre idée, c'est de diminuer la puissance de la climatisation en arrêtant les calculs non stratégiques quand la température dépasse 40 degrés.
Voilà. Voilà.
Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, je pense que c'est assez vertueux parce que on privilégie les usages très stratégiques et on diminue les autres qui, du coup, ne peuvent pas fonctionner quand la température est au-delà de 40 degrés. Mais je vois bien que ce qui a été fait là n'est absolument pas généralisé et qu'on se préoccupe ni de récupérer la chaleur, ni de diminuer la puissance des climatiseurs. Donc, c'est un bel exemple, mais je crains que ça reste un exemple.
Bon, vous nous avez parlé donc de l'énergie, de l'eau nécessaire à l'installation hein, des fameux data centers. Est-ce qu'il y a aussi d'autres impacts sur l'environnement ?
Ah ben oui, oui, bien sûr. Il y a toujours les émissions de CO2, hein, parce que un data center, c'est un élément matériel, donc ça se fabrique, et donc tout au long de la fabrication, avec des terres rares, bien entendu, et du transport. Et la fabrication elle-même, on a un dégagement de CO2. Et après, on a des dégagements de CO2 au moment de l'utilisation. Et comme l'utilisation, en plus, elle est vraiment tout le temps, il n'y a aucune pause dans l'utilisation. L'association Green Inti dit que l'intelligence artificielle, en 2023, hein, c'était 4% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, et maintenant, on sait qu'on l'utilise beaucoup plus. Donc, je n'ai pas les chiffres actuels, mais ça m'étonnerait qu'ils soient très bons.
Parmi les autres impacts, il y a également l'installation de ces data centers sur les terres, hein, en lien avec le problème justement de l'artificialisation des sols, hein, qui, donc, on le rappelle, hein, altère de façon durable les fonctions écologiques justement des sols.
Ah oui, ça c'est tout le problème de l'expansion et de la stérilisation de terres qui pourraient être agricoles et agricoles ou rendues à la nature, hein, ou qui restent nature. Et à l'heure actuelle, les futurs centres normalement devraient artificialiser de façon supplémentaire 827 hectares en France. Voilà, c'est 63 nouveaux centres de données qui sont annoncés. Et voilà, et qui feront l'objet d'une exception. Hein. La loi ZAN ne va pas empêcher l'installation de ces data centers, c'est évident.
De ces projets d'intérêt général, bien sûr.
Exactement, exactement.
Can you, babe, tell me why? apocalypse. Your lips, my lips, apocalypse.
Conclure notre émission sur l'intelligence artificielle, qui d'un point de vue environnemental, mais pas seulement, nous l'avons vu, hein, n'est pas vraiment en cohérence avec le climat et le vivant. Marie-France Barthé, il y a des réflexions pour essayer de cadrer l'usage de l'IA et limiter justement ses impacts ?
Oui, bien sûr. En particulier, il y a un rapport qui a été rendu par l'ADEME et qui établit 5 scénarios possibles.
Oui.
Du premier scénario, c'est le scénario tendanciel, c'est-à-dire on laisse faire, on régule rien,
voilà.
Et les consommations en énergie, en eau, ne vont aller qu'en augmentant, et donc créer des conflits d'usage.
Bien sûr.
Voilà. Et il y a 3 autres scénarios intermédiaires, et le dernier scénario, c'est un scénario de politique publique de rupture, qui consisterait, selon l'agence, à réserver l'intelligence artificielle à des domaines critiques comme la santé, le climat, la défense ou la recherche, et revenir ainsi à une numérisation raisonnée et régulée. Mais aussi, cela nécessite de diminuer un peu les interactions, les écrans publicitaires, les réseaux sociaux, etc. Et donc, une régulation au niveau européen, bien entendu. Hein, on ne peut pas le faire à un autre niveau. Mais moi, je crains qu'on se situe plus dans le scénario 1, qui sera le scénario tendanciel, car il y a une demande très, très forte et des personnes et des entreprises. Donc, alors ça peut être un peu matiné de régulation au niveau européen, mais je pense qu'on n'ira pas très fortement dans la régulation parce qu'on a la concurrence chinoise et américaine qui risque de nous inciter à vouloir aller de plus en plus vite.
Donc le scénario de non-maîtrise de l'IA, le numérique donc impose vraiment des choix de société. Marie-France, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans notre Mac de l'environnement. Merci Philippe à la technique. Chers auditeurs, merci de votre écoute et très bonne semaine à tous.
C'était le Mac de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Lingodoc Narbounot, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.